cours du soir, énergie et science-fiction. Donc il y a de la physique dedans, attention, ça va pas rigoler, hein. Il y aura des calculs, tout ça. Je vous préviens tout de suite, si jamais qui veut l'abandonner, ils peuvent. Bon, il y aura des calculs, je vais pas tout vous faire. Mais essentiellement, pour se poser la question, quand on voit deux questions fondamentales, la première, comment peut-on classer les Jedi? Il y a les mecs forts et les mecs pas forts, manifestement. Il y a plutôt des mecs, il y a aussi quelques nanas qu'on voit, mais ceux qu'on voit, c'est plutôt des mecs. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, nous, les humains, pour faire ce qu'on voit dans les films de science-fiction? Alors, la première question, on va y répondre dès le début. Ça nous permettra d'aborder les notions d'énergie et de puissance qui sont absolument fondamentales en physique.
Est-ce qu'il y aura un micro pour la
ça? Alors, peut-être, oui.
Est-ce que je vois un micro?
Un micro gauche, là-dedans.
Ah, oui, peut-être, c'est ça. Moi, j'essaie de parler fort, mais si je parle là, non. C'est pas allumé, alors, ça me demande.
Énergie et puissance.
Oui, c'est ça, énergie et puissance. On est en plein dans le sujet.
Énergie, puissance et interrupteur.
Alors attendez, on ne sait pas ça, on va prendre ça. Ça, ça marche. Avec un câble, moi, ça va être alimenté. Comment ça marche? Bon, moi, je ne suis pas un théoricien, je ne suis pas un expérimentateur, moi, donc ça va merder. Parce que les théoriciens, c'est ceux qui expliquent quand ça, pourquoi ça marche pas, mais ils sont capables de faire marcher.
Non, mais la question, c'est ce qu'il y aura.
Et les expérimentateurs, c'est ceux qui expliquent qu'ils savent faire marcher, mais ils ne savent pas pourquoi. Ah voilà, ça s'est allumé. Allô? Allô? Non. Ça s'est allumé, hein, regardez. Allô? Non. Bon, j'en sais rien. Ça parle, non, ça parle pas du tout quand je parle dedans, ça entend mieux? Non. Là. Bon, j'ai de parler fort et puis on verra bien. Et donc, je disais, qu'est-ce qui nous manque pour réaliser ce que l'on voit dans les films de science-fiction? Il peut nous manquer des lois de la physique, parce que la science-fiction ne s'embarrasse pas toujours des lois de la physique, donc il faudrait une physique extraterrestre, d'une certaine façon, une physique qu'on ne connaît pas encore, donc ça, ça peut arriver. Mais bien souvent, ce qui nous manque d'abord, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de capacité à manipuler cette énergie, à la débiter en gros paquet. C'est ça que j'essaie de vous montrer aujourd'hui. Alors, on va se servir du Star Wars, on va jouer un peu avec Spider-Man, on va discuter aussi les vaisseaux interstellaires, parce que c'est là où, en général, on pourrait faire un vaisseau interstellaire. J'entends par là qu'on pourrait... On peut penser un vaisseau interstellaire avec la physique actuelle. Il n'y a pas besoin de physique extraterrestre pour imaginer un vaisseau interstellaire crédible. Il ne sera pas forcément super rapide, mais il sera crédible. Mais ça ne va pas être facile, et vous allez voir pourquoi. Alors d'abord, un point sur ce qu'est l'énergie en physique, juste pour le dire une fois... Et une notion qui se déduit, enfin qui est connexe à l'énergie, qui est la puissance. L'énergie en physique, c'est la capacité, ça mesure la capacité d'un système à faire des transformations. Ça veut dire que si vous voulez construire cette table, il va falloir dépenser l'énergie. Si vous voulez casser cette table, il faudra aussi dépenser l'énergie. Si vous voulez refroidir cette table, il va falloir dépenser l'énergie. Si vous voulez chauffer cette table... Il va falloir dépenser l'énergie. Si vous voulez déplacer cette table, il va falloir dépenser l'énergie. Enfin, vous avez pigé l'idée. Dès qu'on veut faire un truc, il faut lâcher de l'énergie. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, l'énergie, elle se compte en joules. L'unité qu'on utilise en physique, c'est le joule. Deuxième point, si on veut, quand on met de l'énergie dans un système, par exemple, si on met de l'énergie dans de l'eau pour la faire bouillir, c'est pas suffisant de mettre de l'énergie. Il y a une certaine quantité d'eau à fournir pour faire, une quantité d'énergie à fournir pour que l'eau boue, mais c'est pas suffisant d'avoir cette énergie dans votre poche, vous la sortez de votre poche. J'oublie les procédés de transformation d'énergie, qui sont aussi importants, on les abordera un peu. Vous la prenez de votre poche, vous la mettez dans l'eau. D'un coup, l'eau va bouillir. Mais si au lieu de la mettre d'un coup dans votre poche, vous la prenez par petits bouts. Prenez un peu de l'énergie, vous la mettez dans l'eau. Un peu d'énergie, vous la mettez dans l'eau. Un peu d'énergie, vous la mettez dans l'eau. Ben, c'est ce que vous faites quand vous allumez le gaz sous l'eau. Si le gaz, c'est un simple briquet, et que l'eau, c'est un mètre cube, est-ce que vous arriverez à la faire bouillir? Si le gaz, il a le débit d'un simple briquet, il a même un énorme réservoir de gaz, de briquet, d'ailleurs le briquet, il est inépuisable d'une certaine façon, et vous avez un mètre cube d'eau, vous n'arriverez jamais à la faire bouillir, parce que vous donnez à cette eau de l'énergie trop lentement. C'est comme si, par exemple, je tape sur ce mur, comme ça, des petits coups, qui doivent chacun donner un dixième de joule. C'est pas minable. Je fais un milliard de petits coups comme ça. Toutes les secondes, je fais un petit coup. Un milliard de petits coups, ça prend 33 ans. Donc on va pas le faire en vrai. Mais imaginez, c'est ça comme la science-fiction. Et si je donnais un milliard de petits coups sur ce truc, chacun un dixième de joule. J'ai donné 100 millions de joules. Mais je les ai donnés en 33 ans. 0,1 joule chaque seconde. C'est minable. Il n'a rien se passé sur ce mur, à part un ennui profond et une désagrégation complète de l'auditoire. En revanche, et pourquoi ça? Parce que l'énergie que je donne au mur, si mon but c'était briser le mur, je vais vous l'avouer, c'est pas comme ça qu'on va faire. Pourquoi ça marche pas? Parce que l'énergie que je la donne avec un débit trop lentement, trop lent, de sorte que ce que je mets dans le mur va être dispersé dans le mur, en le faire vibrant un peu, en bruit, en chaleur, en ce que vous voulez, et ça va se disperser. Et le temps que je mets pour donner l'énergie au mur, il est trop long par rapport au temps pour qu'elle s'évacue ailleurs. Et donc quand vous mettez de l'énergie dans l'eau pour la faire bouillir, il faut mettre de l'énergie dans l'eau plus vite qu'elle s'évacue. Elle s'évacue comment? Parce que votre casserole commence à être un petit peu chaude, elle va rayonner en infrarouge, parce qu'un peu d'eau va s'évaporer, qui va prendre de l'énergie à l'eau et la refroidir. Si vous mettez l'eau moins vite qu'elle s'évacue, elle ne chauffera pas. C'est comme les problèmes de baignoire. Si vous avez une baignoire qui fuit que vous voulez remplir, ben il faut la remplir plus vite que la fuite. C'est comme pour construire des maisons. Si vous avez 1 million d'euros, si vous avez 1 million de joules, l'équivalent monétaire, disons, de l'énergie, vous allez certainement pouvoir construire une belle maison. Vous devriez pouvoir construire une belle maison, mais si vous ne pouvez pas lâcher les joules, l'énergie, les euros suffisamment vite, parce que vous avez hérité de votre grande-tante, qui a dit, ouais, je vous connais, vous êtes dépensier, donc dans mon testament, je largue ça à mon petit-neveu, mais je l'interdis de dépenser plus que 10 euros par jour sur ce million que je lui donne. Vous n'arriverez pas à construire une maison, parce que personne, en moins en France, ne bosse pour 10 euros par jour à construire des maisons. Donc c'est à la fois le stock, l'énergie, et le débit, la puissance. Si le milliard de petits coups de 0,1 joule, je le mets d'un coup, par exemple avec une masse, dans le mur, je vais avoir une puissance plus élevée, la même quantité d'énergie sur un temps beaucoup plus court que les 33 ans, et je casse le mur. D'accord? Énergie et puissance. C'est les deux mamelles de la transformation du monde. Et on va voir l'humanité tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a ça en tête, classifions les Jedi. Yoda est capable de soulever un chasseur X-Wing du marais de Dagobah. Alors il va falloir faire un certain nombre d'hypothèses. Il soulève ce chasseur contre la gravité de Dagobah, qui tire vers le centre. Donc il exerce, on ne sait pas quoi, ça soulève. Il fait monter, on regarde la séquence du film, il fait monter ce chasseur à une vitesse qu'on peut estimer peut-être à quelques dizaines de centimètres par seconde. Un peu lentement, c'est pas boum, hein, d'accord, c'est un peu lentement. Mettons 50 centimètres par seconde, ce qui est déjà une bonne vitesse. Ce chasseur, je ne sais pas combien il pèse. Mettons 20 tonnes, j'ai pris la masse d'un chasseur de combat moderne, terrestre. Ce truc-là est un vaisseau interstellaire. Il a une taille un peu petite pour un vaisseau interstellaire. Donc les 20 tonnes, bon. Mettons 20 tonnes. Contre la gravité, donc en multipliant la masse par la gravité, par la vitesse d'ascension, pour ceux qui ont fait de physique, ça parlera, pour les autres, c'est pas grave, on obtient la puissance qu'il faut payer pour faire monter ce truc. La masse, 20 tonnes, 20 000 kg. La gravité, j'en sais rien. Dagobah, on va dire, c'est comme la Terre. 1G, 10 mètres par seconde au carré, 0,5 mètres par seconde, vous multipliez tout ça, ça fait environ 100 kW. Donc Yoda, 100 kW. Alors on se dit, c'est quoi 100 kW? Ça veut dire 100 000 watts, ça ne veut pas dire grand-chose, on dit c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, 100 000 ça a l'air beaucoup, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, si un watt c'est une unité minuscule. Comme je le dis, moi, je fais 1 750 millions de nanomètres, voilà c'est ma taille. 1 750 millions de nanomètres. Est-ce que je suis grand? La réponse est non, parce que j'ai pris une unité grotesque. Le nanomètre, le milliardième de mètre. Donc évidemment, je fais beaucoup de milliardièmes de mètre. Donc 100 000 watts, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne sait pas ce qu'est un watt. Un watt, c'est un joule par seconde. Super. Alors, pour comparer, on va comparer avec des choses comparables. 100 000 watts, c'est la puissance d'une voiture basique. Voilà. Une bagnole de 100 chevaux, ça fait 73 600 watts. Bon, 100 000 watts, c'est une bagnole. Donc Yoda, une bagnole. Là, dans cette situation-là, que Yoda, bon, c'est Yoda. Pourquoi Skywalker est inminable? Skywalker s'entraîne sur Dagobah. Et il soulève des caisses. Il se met à l'envers pour, rendre la chose plus subtile. Mais il soulève des caisses. Les caisses, elles font quoi? Peut-être 50 kilos. Contre la gravité. Et il a soulevé la caisse de 2 mètres en une seconde. On voit dans le film, ça soulève à peu près sa hauteur, mettons, en une seconde. Je mets des chiffres ronds, on appelle ça en physique des ordres de grandeur. Je ne vais pas vous dire Yoda, c'est 97 882 watts et on s'en fout, quoi. On veut en chiffre rond 100 000 watts. 110 000, 120 000, c'est même 150 000, même 200 000. L'ordre de grandeur, c'est 100 000 watts. Si on fait ça, 50 kg, 2 mètres, 1 seconde, 1 G, 1 kilowatt. 1000 watts. Donc, c'est pareil. Ils ont tous les deux accès à la force. Ils ne devraient pas s'appeler la force. En fait, ils utilisent, ils prennent dans ce qui s'appelle la force de l'énergie. On ne sait pas comment ils font. Donc, ils ont un énorme réservoir d'énergie, comme le gars qui a des millions d'euros pour s'acheter sa baraque. Il y a des mecs qui peuvent fournir 1 kilowatt. Il y a des mecs qui peuvent fournir 100 kilowatts. Ceux qui fournissent 1 kilowatt, ils ne risquent pas de soulever des chasseurs X-Wing. Et ceux qui fournissent 1 kilowatt, ben, ils peuvent soulever des caisses. 1 kilowatt, c'est déjà pas mal. À notre échelle, évidemment, par à l'échelle des Jedi, si on compare à Yoda, évidemment, c'est minable. Et si on comprend pourquoi maintenant, juste, il ne peut pas lâcher assez de watts. Il a peut-être la réserve, mais il ne peut pas lâcher les watts assez vite. C'est aussi simple que ça. C'est comme le gars qui a un million qui peut lâcher que 10 euros par jour. Il fera rien. Enfin, il fera des trucs, mais pas beaucoup. Donc là, 1 kilowatt, c'est quand même pas mal si on compare à l'échelle humaine. Si vous avez déjà vu en vrai un cycliste sur piste, genre champion du monde, même changer de champion du monde, c'est des bœufs. C'est-à-dire, ils ont des cuisses, mais comme mon torse, quoi. C'est des bêtes, quoi. Ces mecs-là, sur un vélo, en cycliste sur piste, au kilomètre lancé, puis ils font ça, et après ils s'écroulent, ils arrivent à lâcher jusqu'à 800 watts. C'est des bêtes monstrueuses. Les gars qui sont sur le Tour de France, qui sont un peu, des fois, bon, qui montent l'Alpe d'Huez, je sais pas quoi, en 20 minutes, on peut calculer, ils montent une certaine altitude, ils mettent 20 minutes contre la gravité terrestre. On peut calculer la puissance moyenne fournie, ça se calcule. D'ailleurs, j'ai un copain qui s'appelle Antoine Vailleur, qui est un spécialiste du vélo, un entraîneur de vélo, qui fait ça tout le temps, dans le monde, à l'époque, et puis il dit, tous les gars qui font plus que 420 watts, c'est pas clair. 400 watts, c'est déjà, c'est bien, mais c'est un entraîné. Donc 400 watts, c'est un cycliste du Tour de France, un balèze, quoi. Un grimpeur balèze. Et il fait ça 20 minutes, et après, c'est rect. Enfin, je veux dire, il va pas beaucoup plus loin derrière. Et vous, même les meilleurs d'entre vous, même les plus jeunes d'entre vous, disons que si vous voulez pédaler une heure ou deux ou trois, sans mourir avant une heure ou deux ou trois, typiquement, vous allez lâcher une centaine de watts. Donc Skywalker, 1 kilowatt, l'humain basique dans la salle, n'importe qui, sauf moi peut-être, plutôt 80 watts, 100 watts. Donc Skywalker, c'est mieux qu'un humain, ça se voit tout de suite, c'est moins bien qu'un Yoda. Et ça se mesure, la comparaison se mesure à la capacité à débiter une quantité d'énergie importante. Il a accès à un stock, lui, qui est la force, donc plein d'énergie, mais il débite pas vite. Nous, on a accès à un stock qui n'est pas la force, qui est ce qui est dans nos muscles. Et le problème, c'est qu'on a des problèmes de stock. Si on s'écroule à un moment donné, si on a de courir plein pot, vous allez épuiser votre stock d'énergie rapide, comme on dit, et puis vous allez vous écrouler lamentablement, parce que vous avez épuisé le stock. Et vous n'avez pas un gros débit, vous n'avez pas un gros stock. Enfin, c'est déminable. Moi aussi, hein, je m'inclus dans le vous. Hein. Parce que vous n'avez ni le gros débit, ni le gros stock. Lui, il a un gros stock, il a un petit débit. Yoda, un gros stock et un gros débit. Et Yana, vous allez voir, ça rigole pas. Enfin, ça rigole pas. Dans des situations, il y en a où ça rigole pas du tout. Donc lui, là, l'empereur, il est en train d'électriser Skywalker. Électriser Skywalker, ça veut dire que il crée avec la force, il se sert de la force pour créer un champ électrique très important qui est capable de rendre l'air conducteur, l'air qui est habituellement un isolant électrique. Alors, quelle est la différence de potentiel entre l'empereur et le sol? Je pars, je reviens dans une heure. Voilà, ça c'est des exercices qui paraissent un peu compliqués, c'est de la physique, alors si on ne sait pas de la physique, on est vraiment emmerdé, on est d'accord.
Il y a quoi comme chaussure?
Ah voilà. Ah ben, je ne sais pas le savoir. Mais il faut se débrouiller avec ça. Donc d'abord, comme chaussure, des chaussures forcément suffisamment isolantes, plus que 3 mètres d'air. Alors on regardera pas le problème des chaussures, parce que ça serait un autre truc, mais il a des chaussures isolantes, et si c'est du caoutchouc standard comme le mien, typiquement 40 cm d'épaisseur. L'empereur, c'est plutôt de drag queen, je révèle ça. Oublions ce détail vestimentaire. L'empereur, il électrise Skywalker, il rend l'air conducteur, mais c'est important qu'il ait des chaussures isolantes, la remarque est fondamentale, sinon il s'électrocute. Hein. Bon, donc il ne faut pas déconner avec ça. Alors il fait ça, l'empereur. On peut estimer la longueur des éclairs en comparant avec la taille de l'empereur. Bon, quoique la taille de l'empereur, il y a une ambiguïté, parce que vu qu'il a des chaussures un peu hautes, bon, c'est pas clair. Mais on s'en fout, il fait environ 2 mètres, on s'en fout, 2 mètres 20, 1 mètre 80, ça ne change pas grand-chose, on veut des ordres de grandeur. Et les éclairs, ils ont l'air de faire peut-être 2 fois, 3 fois la taille de l'empereur, donc des éclairs qui ont peut-être 4 mètres, 3, 4 mètres, 5 mètres. Voilà l'ordre de grandeur. Et pour rendre l'air conducteur, il faut exercer un champ électrique qui se mesure en millions de volts par mètre, exactement 3,6 millions de volts par mètre. 3,6 millions de volts par mètre sur 3 mètres, pour faire un chiffre rond, 10 millions de volts. Peut-être 15 ou 18 ou 20. 10 millions de volts pour faire des chiffres ronds, un calcul mental facile. Donc entre l'empereur et le sol, 10 millions de volts. Ce n'est pas suffisant pour avoir la puissance de l'empereur. Il faut avoir la tension, la différence de potentiel, et l'intensité du courant électrique. Alors on se renseigne, quel courant électrique l'empereur a-t-il pu mettre là-dedans? Il veut dégommer Skywalker. Alors au début, il veut le faire parler. Alors vous regardez par exemple les disjoncteurs différentiels qu'il y a chez vous, qui vous protègent de 10 milliampères, genre une dizaine de milliampères, 10 millièmes d'ampères. Ça veut dire qu'au-delà, on sent que ça ne va pas être bien pour vous. D'accord? Donc 10 milliampères, c'est déjà, ça va, on survit, mais c'est pas cool, on sent le truc. 100 milliampères, ça commence à gratouiller. Après, on se renseigne sur la doc technique des chaises électriques, ça se trouve hein, sur Internet, maintenant tout est là, c'est quelques ampères. Les gars, ils fument. Ils fument, ça veut dire, comme ce sont des résistances de mauvaise qualité, il y a un courant électrique qui circule, eh bien, il y a une dissipation par effet joule, ça chauffe et le gars, il fume. En plus de fumer. D'ailleurs, Skywalker dans le film, vous regarderez, il fume. Quand ça s'arrête, il fume un peu. Donc, Skywalker, il a dû prendre genre 1 ampère, peut-être 2 ou 3, ça sera encore pire dans la puissance de l'ampère, mais d'ordre de 1 ampère. 10 millions de volts, 1 ampère, la puissance électrique, c'est l'intensité fois la tension. En gros, bon, variable. C'est du continu, bon, on ne va pas discuter là. Il y a des subtilités, mais on va faire gros. La tension fois l'intensité. 10 millions fois 1, facile, ça fait 10 millions de watts. L'empereur, 10 mégawatts. Il ne faut pas l'emmerder. Le bilan, il est là. Il ne faut pas emmerder l'empereur, il peut lâcher 10 mégawatts sous forme d'éclair. 10 mégawatts, c'est un TGV entier, double rame à 300 à l'heure. Donc, on ne déconne pas avec l'empereur. Donc oui, Yoda, 100 kW, ça a l'air un peu minable, il sait faire ça aussi. Il sait absorber les... Quand l'empereur ou quand, comment il s'appelle, Dooku lui envoie les éclairs, il les prend, puis il les reprend. Il est fort, Yoda. Hein. D'accord, respect pour Yoda quand même. Mais quand on le voit faire le truc, 100 kW, 1 kW pour le Skywalker, et lui, 10 MW. Donc c'est attention. Alors là, il y a un autre truc qui est intéressant. Là, c'est Qui-Gon Jinn avec son sabre laser. Il est énervé parce que de l'autre côté de la porte, si vous vous rappelez, il y a les deux vice-rois, il veut leur casser la figure. La porte s'est refermée, c'est une grosse porte métallique qui s'est fermée, genre porte de coffre-fort, grosse porte de sécurité blindée, épaisse, enfin, je sais pas, genre un mètre d'épaisseur, qui s'est fermée. Il prend sa blazer, il plonge dedans, il touille un peu, et puis ça fond. Du côté des vice-rois, ça fait ça. Du côté des méchants, voilà ce que voient les méchants. Au bout de 3-4 secondes dans le film. Hein. Donc les méchants, ils voient ça 3-4 secondes, je peux vous dire... Ça arrive pas, quoi. La porte blindée, elle fond. Donc le gars, il va arriver bientôt, quoi. Bon. Et en plus, elle fond vite, la porte. Hein. C'est pas... bon. Alors, on peut estimer la puissance qui est dégagée par le sabre laser. La puissance que le sabre laser injecte dans la porte. On peut la calculer. Comment on fait? Bon, on se dit, il a fait fondre un gros bloc de métal. Pour faire fondre un bloc de métal, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut le chauffer. Il faut le chauffer assez vite, encore une fois, c'est pas au coup du briquet, hein, comme l'eau chaude. Il faut mettre suffisamment d'énergie en suffisamment peu de temps, donc avoir un débit d'énergie importante, une grosse puissance. La durée, on sait que ça va être quelques secondes, 3, 4, 5 secondes, et l'énergie à mettre, ça se calcule combien d'énergie il faut payer pour faire fondre une porte. Alors ça va dépendre de la porte, donc du métal de la porte, ça dépend de la quantité de métal que vous faites fondre, et ça va dépendre des dépenses du métal, ça veut dire température de fusion, et quelques propriétés thermodynamiques sur lesquelles je passe, mais c'est pas grave. Donc il faut connaître les caractéristiques de la porte. On va supposer que c'est de l'acier, parce que bon, on va pas s'emmerder avec les détails. De toute façon, c'est forcément un mélange d'un truc qui est dans des éléments qui sont dans la classification périodique de Mendeleïev. Hein, les gars, ils nous arnaquent pas, les ingénieurs de l'Empire. Ils inventent pas le méta, nobtenium de je sais pas quoi. Non, non. C'est un mélange des 92 éléments naturels. Donc si je fais cette hypothèse-là, que c'est un monde réel qui se joue devant moi, c'est pas un truc où ils ont inventé la porte qu'ils ne font jamais, d'ailleurs c'est faux parce qu'elles font, ils ont un mélange de trucs qu'on trouve partout. Je prends de l'acier parce que c'est facile de trouver les valeurs, si vous me dites, je prends pas de l'acier, je prends du plomb. Je dis, non, faut pas déconner, le plomb c'est un métal mou qui a une température de fusion basse. Donc non, on prend pas un truc minable pour faire une porte blindée. Encore pire, si vous prenez de l'étain, si vous on fait des soudures. Une porte en étain, personne fait ça, quoi, d'accord. Donc il y a des trucs, on les évite. Et puis il y a des trucs qu'on peut les utiliser, si on me dit du tungstène, bon d'accord, respect, le tungstène ça fond à 3000 degrés, l'acier à 1500, c'est mieux. Mais c'est plus qu'à 100 que l'acier, donc c'est moins bien pour la... si on tape dessus à coup de masse. Bon, on discute, c'est pas très grave, ça va pas changer le raisonnement. Je vais prendre de l'acier. Alors cet acier, sa température de fusion, c'est 1500 degrés, donc il faut en gros, de la température ambiante à la température de 1500 degrés, il faut élever l'acier à cette différence de température. En gros, 1500 degrés. Donc il faut payer l'élévation de température d'une certaine masse d'acier. 1500 degrés d'acier à faire monter, une certaine masse d'acier à faire monter de 1500 degrés. Comment je connais la masse d'acier? Ben, je compare la taille du trou qui fait à la taille du gars, genre 1 mètre de diamètre. La grosse porte qui s'est fermée, elle fait genre 1 mètre d'épaisseur. Et donc, vous vous rappelez tous du volume du cylindre. Et donc, calculez le volume du cylindre qui fait 1 mètre de diamètre, 1 mètre d'épaisseur. La réponse, c'est pi sur 4 mètres cubes. D'accord? On voit moins de... pi sur 4, là. Ça fait en gros 3 quarts de mètre cube. L'acier, ça pèse à peu près 8 tonnes par mètre cube. 3 quarts de 8, ça fait 6. Donc, vous avez 6 tonnes d'acier confondu. Il faut monter 6 tonnes d'acier de 20 Celsius à 1520 Celsius. On s'en fout, c'est 1550. Ça ne va pas changer grand-chose dans nos valeurs numériques. Encore une fois, on est en ordre de grandeur. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il faut payer un deuxième bakchich qui est la chaleur latente de fusion. Une fois qu'on est à la température de fusion, il faut payer un autre truc en physique, en thermodynamique. Je ne rentre pas dans les détails. Ça s'appelle la chaleur latente. Bon, vous payez les bakchiches, vous payez ce qu'il faut en énergie. Ça se calcule. Pour ceux qui veulent, les valeurs sont là. On s'en fout. Et vous divisez cette énergie par 3-4 secondes et vous obtenez 1 gigawatt, 1 milliard de watts. Alors maintenant vous savez ce que c'est un watt, puisque vous avez compris, enfin vous ne savez pas ce que c'est un watt, c'est un joule par seconde, mais vous savez que 100 kW c'est iota, 1 kW c'est 1, 10 MW, 1 gigawatt c'est 1 milliard de watts. Une bagnole c'était 100 kW, un TGV double rame c'est 10 MW, 1 gigawatt c'est un cœur de centrale nucléaire. Donc voilà ce que ça veut dire, là quand il s'agace un peu, là, il est en train de lâcher 1 milliard de watts.
D'accord ? C'est plus fort
que l'empereur. Ça rigole pas. Ah ben l'empereur, il était un peu en train de jouer là. Hein. Il est pas. Il peut monter probablement, c'est l'empereur. Mais ça veut dire qu'on voilà, on peut aller jusqu'au gigawatt avec la force. Donc il récupère toute cette énergie. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il récupère l'énergie qui est dans la force. Il la met dans le manque. Parce que évidemment, c'est pas des piles. Vous avez bien compris ça? C'est ça, parce que, pour que ça soit clair. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, on ne sait pas comment, l'énergie qui est dans la force. Il la fout dans le sabre laser, qui est non pas des piles, mais une machine qui va transformer la force en lumière. C'est une machine qui transforme une forme d'énergie en une autre. Comme par exemple, un vélo transforme votre énergie musculaire en énergie de mouvement. Comme un alternateur transforme une énergie de mouvement en énergie électrique. Comme un moteur de voiture transforme un moteur thermique, transforme de l'énergie chimique de l'essence en énergie de mouvement de la voiture. D'accord ? Donc il y a des machines qui transforment une forme d'énergie en une autre. On ne devrait pas dire on produit de l'énergie. On transforme une forme d'énergie en une autre forme d'énergie grâce à une machine. Et dans cette transformation, tout ce qui était au départ ne retrouve pas la fin. Il y a des pertes, il y a des choses qui disparaissent. Par exemple, dans les frottements, les pistons, on met un peu d'huile. Enfin, il y a quand même des frottements. Les frottements sur l'air, sur la route, avec les pneus. Les frottements dans toutes les parties mécaniques qui bougent. Il y a une partie de l'énergie initiale qui est transformée en énergie utile finale, l'électricité, le mouvement, ce qu'on veut, la chaleur, si on veut chauffer. Et il y a une partie qui est transformée en autre chose qui n'est pas utile. Pas utile, ça veut dire qu'on ne va pas la récupérer, ça part dans les frottements, ça part dans les vibrations, ça part dans le bruit, la machine fait un boucan d'enfer, ça part dans plein de trucs. Et au final, toutes ces choses-là, in fine, elles se retrouveront en chaleur. Une partie de l'énergie que vous mettez dedans ne se retrouve pas en sortie comme énergie utile. Là, l'énergie utile, c'est la lumière des sabres laser. Il y a un gigawatt de lumière. Il prend une certaine quantité, il la met dedans. Il y a donc un certain rendement dans le sabre laser, qui n'est pas 100%. Ça ne peut pas être une machine parfaite, ça n'existe pas. Les machines, les très bonnes machines qu'on sait faire, nous, il y a deux modèles de très bonnes machines. Il y a le vélo, qui est une très bonne machine, et les vélos sportifs, les vélos professionnels sont particulièrement efficaces. Mais même les vélos de bourrin, ça marche très bien. Typiquement, ça convertit entre 80 et 90% de notre énergie musculaire en énergie de mouvement. À comparer au moteur de bagnole, c'est plutôt 20%. Les bagnoles, c'est une sous-merde, c'est une catastrophe. Une énergie extrêmement concentrée sous forme d'essence, il n'est transformé qu'à 20% comme mouvement de la voiture. C'est une catastrophe. Une autre machine qui marche très bien, les moteurs électriques, moteurs de TGV ou de bagnole électrique, transforment extrêmement bien l'électricité en mouvement. Bon, après, l'électricité, elle vient de quelque part. Hein. Donc, il y a des machines à vendre qui transforment autre chose en électricité. Mais l'électricité en mouvement, les moteurs électriques font ça très bien, jusqu'à des rendements de 80-90% aussi. Donc là, le rendement du sabre laser va prendre un truc de, c'est l'ingénierie de, des Jedi, quoi. C'est des gars, ils ont pensé. On va dire que ça transforme 99,9%. C'est vraiment, c'est des grosses bêtes. Ça n'existe pas sur Terre des machines aussi belles que ça. Il y a un millième de l'énergie qui est perdue. Un millième de 1 gigawatt, ça fait 1 mégawatt. Qui est perdu en chaleur. Où ça ? Dans la machine. Ça veut dire dans le manche du sabre laser. Quand vous prenez un machin qui est beau comme ça, voici un manche de sabre laser. Et bien, immédiatement, parce que vous mettez 1 mégawatt là-dedans, donc il y a un gros débit, ben, ça va être très chaud, très rapidement. La température d'équilibre, si c'est un bout de ferraille à la con, c'est plus que de la ferraille, il y a des petits machins subtils, et puis des décorations, des trucs, enfin bon, ça fait une température d'équilibre, parce que ça va le chauffer, l'énergie va s'accumuler, le truc va chauffer, il va rayonner de la lumière, et à un moment donné, il y aura équilibre entre ce qui rentre, les 1 mégawatt perdus, et ce qui sort, le rayonnement. Et la température d'équilibre, elle sera de l'ordre de 1000 degrés. Donc vous allumez votre sabre laser et vous le lâchez tout de suite. Incidemment, ça veut dire qu'il faut avoir des gants pour manipuler un sabre laser, des gros gants de vulcanologue bien, bien épais, si vous voulez le tenir plus de 2 secondes. C'est aussi très utile parce que, du point de vue, disons, de la sécurité dans un laboratoire de physique, je ne recommande pas de mettre ses mains près de plusieurs kilogrammes de métal antifragile. En été, ça s'appelle un barbecue. Avec ça, et là, il y a la viande, d'accord ? Donc ça, on ne fait pas. C'est pareil, là, autre élément de sécurité, on ne regarde pas directement avec les yeux une source brillante. C'est dangereux pour les yeux, ça abîme les yeux de regarder des sources brillantes en mouvement. Donc, ce Jedi devrait plutôt avoir des gros gants genre vulcanologue, bien isolés carrément. Il ne pourra pas jouer longtemps avec son sabre, mais peut-être 3 ou 4 secondes, le temps de faire le trou dans la porte. Et après, il faut qu'il arrête tout, le sabre est fumant, fondant, enfin, c'est très bon. Il modifie
sa biologie.
Hein ? Oui, alors, bah, après, oui, peut-être, y a plein d'astuces, après. Mais alors, du coup, comme moi, mon chemin de raisonnement, disons, à physique égale, la même physique que moi, si c'est de la physique extraterrestre, si c'est Harry Potter, si c'est de la magie, si c'est ce qu'on veut, je peux rien en dire. Donc, effectivement, on peut toujours trouver des arguments, dire, bah, ils ont des mains ultra bétonnées, anti-radiation, pourquoi pas ? Je n'ai aucun moyen de le vérifier. Donc du coup, c'est embêtant. Alors que là, je peux vérifier que les portes fondent et que c'est peut-être de l'acier. Mais c'est pas de l'acier, on joue avec un autre raisonnement. Enfin, le raisonnement sera le même, mais la valeur sera pas la même. Vous avez raison, ça pourrait être pour les explications et sur lesquelles j'ai pas pris. Donc un gigawatt. Donc vous voyez qu'on peut classer les Jedi comme ça. On peut classer les Jedi comme ça en regardant la puissance qu'ils sont capables de débiter en pompant de l'énergie à la force. Alors là, on parle d'un autre monde. L'étoile de la mort, ça rigole pas. C'est le machin qui détruit les planètes. Alors on va essayer de dire, l'étoile de la mort, quelle puissance. Alors pour rigoler, on va mettre un petit extrait. Ah oui, on peut... C'est assez efficace. Non, bon. Je laisse à votre sagacité le problème intéressant d'optique, des faisceaux lumineux qui arrivent et qui repartent dans une seule direction. Ça, je ne sais pas comment ils font. Bon, en tout cas, au final, le sabre laser, l'étoile de la mort, elle bousille une planète. Alors, ça veut dire quoi, bousiller une planète ? Bonne question. Si vous voulez casser quelque chose, vous devez dépenser une énergie qui est supérieure à ce qu'on appelle l'amplitude, son énergie de liaison. Si vous prenez par exemple une télécommande et vous voulez la casser en deux, il y a un plan où ça va se briser, en gros un plan, mais ça fait des petits détails, il y a un plan où ça va se briser, et tous les atomes qui étaient en gros face à face sur ce plan de brisure étaient liés entre eux. Il faut dépenser une énergie qui est égale à la somme de toutes les liaisons entre les atomes, ou les molécules, qui étaient dans le plan où j'ai brisé. Si maintenant vous voulez, donc ça c'est facile à briser, c'est sur un plan. Si maintenant vous voulez réduire ce truc en poussière, ça veut dire que c'est pas sur un plan. Il faut réduire sur tout le volume, tous les atomes et les molécules de soi doivent être séparés pour le réduire en poussière. Alors, atomes et molécules, je veux dire en poussière moléculaire. Si je veux réduire en petite poussière, eh ben, les petits grains de poussière, les zillions de petits grains qui font quelques dixièmes de millimètres de diamètre, qu'il faut que je sépare, il faut calculer cette énergie, disons, les plus importantes. C'est plus cher de réduire ça en poussière que de le briser en deux. Et c'est plus cher de le briser en deux que de le rayer. Parce que le rayer, je fais sur une ligne. Donc, énergie le long d'une ligne, énergie le long d'un plan ou énergie en volume. Ça dépend la dimension de l'énergie que vous allez dépenser, là on va dépenser une énergie de volume. On va payer, toute la putain de planète va voler en éclats. Donc on va payer cher. Là, c'est pour vous convaincre qu'on va payer cher. Alors l'énergie de liaison d'une planète, ça vient de quoi? Pour la télécommande, vous et moi, les bras qui se cassent quand on tombe, les tables, les bagnoles, tout ça, c'est de l'électrostatique. C'est des liaisons d'origine électrostatique entre les molécules et les atomes qui constituent la matière que vous êtes en train de briser. Dans le cas d'une planète, l'énergie de liaison, ce qui lui donne sa cohésion, sa cohérence, c'est pas l'électrostatique, c'est la gravitation. Ça se voit sur la planète. Ça se voit parce qu'elle est spontanément sphérique et que, puisqu'elle est sphérique, c'est que la force qui lui donne sa cohésion est à symétrie sphérique. Et la force, et la force de gravitation est une force asymétrie sphérique. Vous me répondrez que l'électrostatique aussi, et je répondrai, vous avez raison, mais dans l'électrostatique, il y a une grosse différence avec la gravitation. Il y a des charges positives et des charges négatives qui s'écrantent mutuellement, ce qui fait qu'un atome du bout de mon doigt n'est absolument pas sensible aux atomes du reste de mon corps. Il est sensible seulement aux atomes du point de vue électrostatique qui sont ses plus proches voisins, parce que les autres atomes, vu de sa position, ces atomes qui sont très loin, sont masqués par des charges positives qui se masquent avec des charges négatives, qui se masquent avec des charges positives. Donc l'ambiance générale pour lui, c'est neutre électriquement et il n'y a pas de force électrique. Donc il va être sensible à ses plus proches voisins. Tandis que par la gravitation, un atome du bout de mon doigt, il est sensible à l'ensemble des atomes de la Terre. Ça s'appelle son poids. D'accord ? Donc pour la gravité, mon poids, ça résulte de l'action de l'ensemble de la Terre sur mon corps. Alors que les frictions de mon corps sur le sol et la cohésion de mon corps, ça résulte d'une interaction de plus proches voisins, à cause de la possibilité d'avoir des charges positives et négatives, alors qu'il n'y a que des masses positives. Donc l'énergie de liaison d'une planète, c'est l'énergie de liaison gravitationnelle. Ça se calcule, c'est proportionnel au carré de la masse de la planète divisé par son rayon avec une constante de proportionnalité, qui est la constante de Newton, la constante de gravitation universelle. On calcule. On obtient que l'énergie de liaison d'une planète, c'est 10 puissance 32 joules. Alors là, on dit 10 puissance 32 comme ça va être beaucoup. Je confirme. L'humanité consomme 5 10 puissance 20 joules par année. Donc 10 puissance 32 joules, c'est quelque chose comme 2 10 puissance 11, ça veut dire 200 milliards d'années de consommation humaine d'énergie actuelle. On n'est pas prêt de bousiller la planète en la faisant voler en éclats. D'accord, ça veut juste dire qu'on est déminable à cette échelle-là pour la réduire entièrement en volume en éclat. Vous allez voir tout à l'heure qu'on arrive à faire des choses quand même un peu désagréables. Le Soleil rayonne 10 puissance 4, 10 puissance 26 joules par seconde, 10 puissance 26 watts, c'est beaucoup. Ça veut dire que le Soleil rayonne en 1 millionième de seconde à peu près autant d'énergie que l'humanité consomme en une année entière. Le Soleil, c'est gros et ça envoie des watts. Beaucoup de watts. L'humanité, 5, 10 puissance 20 joules par an, c'est à peu près 10 terawatts. 10 1000 milliards de watts. C'est beaucoup. 10 000 milliards de watts, voilà la puissance de l'humanité. Et rapporté à un an, compté sur un an, ça fait cette énergie-là. Donc si vous bousillez une planète terrestre, Aldebarande, on va dire qu'elle ressemble à la Terre, elle a à peu près la même masse, à peu près le même rayon, pour faire cette hypothèse, pour balancer 2 10 puissance 32 joules, quand vous avez un soleil à votre disposition, mettons, vous passez de 4 10 26 à 2 10 32, je vous laisse faire le calcul, ça fait 5 10 puissance 5. 500 000. Vous prenez 500 000 secondes du Soleil, tout le Soleil, pour vous, rien que pour vous, 500 000 secondes de ça, vous faites un gros tas, et bam, vous mettez dans la Terre. J'oublie les détails techniques de comment. 500 000 secondes de Soleil, ça fait à peu près 6 jours. D'accord ? 6 jours de rayonnement solaire, de un Soleil. Je rappelle que le Soleil fait 700 000 km de rayon et qu'une enquête que je n'ai pas faire ici permet de déterminer la taille de l'étoile de la mort qu'on peut estimer à 400 km. Donc on ne fait pas tenir un Soleil dans l'étoile de la mort. Ça, c'est pas possible. Et si vous avez une machine qui débite une énergie équivalente à celle d'une étoile, en gros, comme le Soleil, il faut 6 jours de cette machine. Pendant 6 jours, elle tourne, elle accumule le gros tas d'énergie. Là, avec vos 10 euros par jour, on dit « Bon, ben, qu'à cela ne tienne, je vais prendre ces 10 euros par jour et je vais les mettre en tas. » Et quand j'aurai 10 000 euros, au bout de 1000 jours, hein, donc 3 ans, d'un coup, vous pourrez payer un gars qui a commencé les travaux. Le temps qu'il bosse un peu tranquillement, 3 ans plus tard, vous aurez à nouveau 10 000 euros. Pour... Enfin, vous voyez, ça ne va pas être rapide non plus. Mais c'est ça l'idée, vous allez accumuler cette énergie produite au rythme, mettons, d'un soleil à l'étoile de la mort. Et pendant 6 jours, vous avez accumulé ça et vous lâchez ça d'un coup. Je ne parle pas du problème du stockage de l'énergie, évidemment, en plus. C'est des condensateurs super pros. Vraiment pro. Hein. Bon. Donc ça veut dire que c'est l'étoile de la mort, ça veut dire que même si elle a une étoile, elle a une machine à l'intérieur qui peut lâcher la puissance d'une étoile entière, cette machine doit fonctionner 6 jours. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas en disant « Ah, vous dégommez Aldebarande, vous vous barrez, ah, je vais dégommer telle autre planète. » Non, vous avez 6 jours d'intervalle forcé. C'est pas « poum, 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 poum ». D'accord ? C'est « poum, 6 jours, poum, 6 jours, ouais. » Donc vous pouvez mater des rébellions, mais bon, pas tous les jours. Alors en même temps, l'explosion, voilà ce que ça donne. Vous avez vu l'explosion, ça fait boum quoi. Alors il y a un supplément d'âme dans cette énergie là. C'est que si vous mettez exactement l'énergie de liaison, qu'est-ce qui va se passer? Dans tout le volume uniformément, on va supposer que ça s'est bien mis tout seul. La planète va rentrer en expansion, mais à quelle vitesse? À une vitesse, on va montrer qu'elle va rentrer en expansion à une vitesse qui est égale à la vitesse de libération de la planète. Si c'est un truc comme la Terre, ça sera l'ordre de grandeur 10 km par seconde. Donc votre planète, elle va rentrer en expansion à 10 km par seconde, 36 000 km par heure, pour dire pas mal. Une planète qui fait 6 000 km de rayon, je dis 6 000 pour faire un chiffre rond, à 10 km par seconde, il faut 600 secondes pour parcourir 6 000 km. 600 secondes, ça fait 10 minutes. Je récapitule. Bousillez-moi Aldebarande. 10 minutes plus tard, l'étoile, la planète a doublé de taille. Elle a doublé de rayon. Elle est passée de 6 000 à 6 000 plus 6 000, à 12 000. 10 minutes plus tard. On n'a pas vu 10 minutes là. Donc, l'autre, tu ne l'aurais pas supporté. Non, 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 non. Changez-moi ça, il faut que ça pète. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire en plus de payer l'énergie liaison? Ils ont dû payer l'énergie cinétique de l'expansion, l'énergie de mouvement. L'énergie de mouvement, quand on regarde cette séquence image par image, on peut regarder, il y a l'espèce de front. Tac, 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 ça avance. Et moi, je constate que quand ça grossit d'à peu près le rayon d'Aldebarande, c'est passé de l'ordre de 1 seconde. Si Aldebarande, c'est 6000 km de rayon, ça veut dire que la vitesse d'expansion, c'est pas 10 km par seconde. La vitesse de libération, c'est 6000 km par seconde. C'est beaucoup. Et quand c'est beaucoup, il faut payer l'énergie de mouvement. Et quand c'est une planète entière à 6000 km par seconde, ça fait beaucoup d'énergie. Alors ça se calcule aussi, hein, c'est ça qui est bien avec la physique, ils sont emmerdés. Donc c'est proportionnel à la masse et au carré de la vitesse. On fait le calcul, et j'ai pris 10 000 km par seconde pour que ça soit plus rond, que ce soit des chiffres en ordre de grandeur plus facile. Ça veut dire que cette fois-ci, il faut payer les 10 puissance 32 joules dont on parlait, ils sont en fait négligeables. L'essentiel de l'énergie qu'on voit à payer, c'est l'énergie cinétique de l'explosion. Plutôt 10 puissance 37 joules. Beaucoup, 100 000 fois plus. Donc cette fois-ci, si vous avez une machine de 1 soleil, ça dégage déjà pas mal. Au cœur de l'étoile de la mort, il faut 6 jours pour faire le truc d'avant. Le truc d'avant, c'est pas le bon truc. C'est ça le bon truc. Ce truc-là, c'est 100 000 fois le truc d'avant. Donc un soleil pendant 600 000 jours. Ah non. Donc ça veut dire que s'ils veulent tirer un coup, tous les 6 jours, c'est pas beaucoup déjà pour mater des rébellions. Il faut qu'ils aient plutôt 100 000 soleils, en fait, dans l'étoile de la mort. Pas un soleil, plutôt 100 000 soleils. Et une étoile qui produit comme 100 000 soleils, c'est une étoile qui fait 20, 25 masses solaires avec un rayon, enfin qui tient encore moins dans l'étoile de la mort. Si c'est un truc normal. Alors après, on pourrait discuter de trucs anormaux. Mais plutôt que de rentrer dans l'état de qu'est-ce qui pourrait être le moteur, ce serait toute une discussion qu'on pourrait faire pendant encore une petite heure, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'étoile de la mort pour lâcher 100 000 soleils, pour qu'on puisse extraire une puissance de 100 000 soleils pendant 6 jours, de sorte qu'on ait toute cette énergie-là à lâcher d'un coup dans le méga turbo laser. Et évidemment, je ne rentre pas dans les détails scabreux de quel est le rendement de la machine. Parce que si le rendement, c'est 1 pour 1000, mettons toujours une super machine, et que vous lâchez 10 puissance 37 joules, vous lâchez quand même dans l'étoile de la mort, plus l'énergie, disons, de la Terre entière, dans un machin qui est beaucoup plus petit. Donc vous tirez votre couille, en fait, boum. Bon, je passe sur ces détails. Alors, voilà un truc que j'appelle l'énergie spécifique en physique, c'est l'énergie combien de joules par kilogramme de matière. Ça c'est important, c'est pour savoir quelle énergie est concentrée, quelle énergie est diluée. Une énergie qui a beaucoup de joules par kilogramme, elle est concentrée. Alors si on regarde par exemple les batteries neuneux, voir vos téléphones portables, je dis vous parce que moi j'en ai pas. Les batteries électrochimiques vachement la classe, ça contient 0,3 million de joules par kilogramme. Et c'est minable. Parce que par exemple, si vous prenez du TNT, c'est plutôt 5, un peu moins de 5 millions de joules par kilogramme. C'est du TNT, on sait qu'on joue pas avec, quoi. Et si vous prenez du charbon ou de l'essence, l'essence super cool, l'essence de bagnole, c'est une honte d'avoir un rendement de seulement 20% avec l'essence de bagnole, en énergie qui est très concentrée, qui est 47 millions de joules par kilogramme, qui est une énergie chimique assez concentrée. Un kilogramme donne beaucoup d'énergie, peut libérer beaucoup d'énergie. Mais de toute cette énergie libérée, il n'y a que 20% qui va dans le mouvement de la voiture, le 80% à chauffer l'air et à chauffer la bagnole. L'hydrogène, l'énergie chimique hydrogène, transformée de l'eau en hydrogène par hydrolyse, par électrolyse, ça coûte de l'énergie de faire ça, ça permet de stocker sous forme d'hydrogène, et quand vous le réutilisez, vous pouvez récupérer mieux que l'essence. L'hydrogène, bon bref, 123. Alors le sabre laser, l'estimation que j'ai, c'est plutôt 10 000 mégajoules par kilo. Ça écrabouille lamentablement toutes les méthodes chimiques. C'est en ordre de grandeur ce qu'il faudrait s'il y avait du nucléaire à l'intérieur. Évidemment, on a dit qu'il fallait une centrale nucléaire, donc il n'y a pas de miracle. Il faut plutôt une concentration de l'ordre de nucléaire, avec un rendement qui est, mettons, un millième, c'est ça exactement. Si vous avez le soleil, l'uranium-235, la fusion de thérium-tritium, le nucléaire, il peut lâcher quelque chose comme 10 millions à 100 millions, plutôt 100 millions à... Non, 10 millions à 100 millions de mégajoules. 10 millions à 100 millions de mégajoules, donc c'est énorme. Par kilogramme. Quand vous pensez à la bombe d'Hiroshima, par exemple, aux bombes nucléaires en général, mais Hiroshima, c'était l'énergie d'explosion, on dit souvent la puissance, et c'est pas le bon mot, vous avez compris maintenant, c'est l'énergie d'explosion, avec une grosse puissance, qui a été larguée rapidement, c'était 15 kilotonnes de TNT. Ça veut dire, ça équivalait à l'explosion de 15 millions de kilogrammes de TNT. Regardez, TNT, c'est écrit là, 4,6 multiplié par 15 millions, ça fait 70 millions, et ça fait à peu près ce qu'on trouve dans l'uranium. 10 millions de mégajoules par kilo. L'énergie nucléaire est extraordinairement concentrée. Et c'est pour ça qu'elle est pratique par certains aspects. Un petit volume, une petite masse, vous donne énormément d'énergie. En gros, 1 million de fois plus que, ou 10 millions de fois plus que l'énergie chimique. L'antimatière, c'est pas mal aussi, mais il faut la produire d'abord. Vous faites de la matière avec de l'antimatière, annihilation, paf, ça fait toute cette masse intégralement convertie en énergie. Mais l'antimatière n'existe pas à l'état naturel, donc il faut d'abord payer l'énergie pour la fabriquer, puis l'utiliser. L'étoile de la mort, bon voilà, l'étoile de la mort. C'est un peu, ouais. Et puis j'ai comparé avec les protons, l'énergie qu'il y a dans un seul proton, dans le volume, l'énergie cinétique de un seul proton, dans le Large Hadron Collider, un seul proton et l'énergie, voilà ce qu'il faut pour l'étoile de Vamont. C'est une énergie qui est considérable. Dans un seul proton, une seule particule, on a une énergie qui est équivalente à celle d'un moustique en vol. Vous allez me dire, sous ma gueule, je dis non, parce qu'un moustique en vol, c'est pas loin de 100 000 milliards de milliards de protons. Et là, dans un seul proton, vous avez toute l'énergie d'un moustique en vol. Donc quand vous prenez le un seul proton, vous dites, ça va. Quand vous prenez plein de protons, ça va aussi. Enfin, ça va casser des trucs dans votre corps quand même, de l'ADN et des machins, donc je ne recommande pas l'expérience. Mais c'est pas des grosses énergies, mais c'est des densités d'énergie énormes, ou dans l'énergie spécifique, énergie par kilogramme, qui sont absolument énormes, qu'on a dans le LHC pour produire toutes ces particules qui sont étudiées ensuite. Alors on parle d'énergie nucléaire, là, de fusion deutérium-tritium, c'est la réaction de fusion, on assemble deux noyaux légers pour faire un noyau plus lourd. On utilise dans les centrales nucléaires plutôt la fission, on brise un gros noyau, de l'uranium en l'occurrence, un gros noyau brisé en deux, ça dégage de l'énergie. La fusion de thérium-tritium, c'est exactement ce qu'utilise Père Octavius. Et regardez ce qu'il nous dit.
Veuillez attacher vos ceintures.
Vous remarquez déjà qu'il est plus malin que les Jedi. Un détail, mais qui a son importance. Alors, voilà sa machine. Ça c'est sa machine, elle est devant vous, c'est dans ce petit machin là que va avoir lieu qui est la machine à fusion, c'est ça qui va nous présenter, une machine à fusion. On va comparer avec les machines réelles après. Donc il allume les lasers, il y a un petit bruit sympa, ça vise un truc au milieu qui est le carburant, il nous dit au début que c'est du tritium, il nous dit du tritium, et non, c'est du tritium et un autre truc, du tritium tout seul. Donc, on va faire l'hypothèse que c'est un mec malin parce qu'il a mis ses lunettes, donc il doit y avoir du deutérium et du tritium, qui sont deux isotopes de l'hydrogène.
réussi une parfaite fusion.
Bravo, là, c'est super la classe. Tout le monde est content.
C'est une vraie.
Vous avez remarqué, ça a pris un certain temps.
Merci.
Et essayez d'imaginer ce que ça représente. Ça vous évoque quoi? Là, regardez, on la voit bien. Cette petite boule-là, ça vous évoque quoi? Vous remarquez autour, là, une espèce de petite sphère, là. C'est les champs de force, comme on dit. Hein. Ça veut évoquer probablement ce qu'on appelle la fusion par confinement magnétique. Un champ magnétique qui garde le plasma de fusion. En même temps, l'allumage a été fait par des lasers. Dans, la champ, dans les méthodes à confinement magnétique, on allume par des champs électriques et par des courants très intenses qui circulent dans le plasma. On chauffe le plasma à 200 millions de degrés. Dans les allumages par laser, on fait ça aussi, dans le laser mégajoule, mais là, c'est une toute petite bille qui fait peut-être 1 mm de taille, qui est éclairée par une centaine de faisceaux laser qui déposent une énergie considérable en un temps très bref, qui est une énorme puissance, dans la petite bille de 1 mm. Ce truc-là, ça serait un plasma de fusion. 200 millions de degrés. On peut mettre des lunettes de soleil, mais ça ne va pas être suffisant. Le gars, il est quand même dangereusement près de la boule en question. Et on peut calculer, en fait, on peut se dire, si cette boule-là, qui a l'air de faire, mettons, 1 mètre de diamètre, elle est à 200 millions de degrés, elle rayonne une énergie lumineuse considérable, si on se met à 200 mètres de cette boule, on reçoit, sous forme d'énergie lumineuse, autant d'énergie thermique que reçoit un steak dans une toile. Donc 200 mètres n'est pas la limite de sécurité. Reculer encore. Donc c'est très dangereux. Incidemment, le rayonnement pour un gaz à 200 millions de degrés ne se fait pas en lumière visible. Il se fera en lumière, en rayons X. On ne devrait pas voir cette sphère. Pas en lumière visible. Si on la voit en lumière visible, elle est jaune. Et elle a des coins noirs. Eh bien, c'est parce que c'est là, en fait, elle est à la température beaucoup plus normale. Par exemple, celle du soleil, qu'on voit un peu jaunâtre, 6000 degrés. Cette sphère, si c'est une sorte de fusion, elle est à 200 millions de degrés, on ne devrait pas la voir. Si je la vois, c'est qu'elle est à 6000 degrés, et alors, ce n'est pas une sphère de fusion. Pas normal, c'est pas normal. Donc, cette sphère-là, vous voyez qu'il y a des zones sombres et pas sombres, il y a le petit champ étiqueté là, où il y a la taille de l'engin, la taille de la machine, qu'elle connaît. Vous remarquez aussi qu'il agit, avec ses tentacules, là, je ne discute pas les tentacules, ça serait marrant aussi, mais il agit avec ses tentacules, il fait ça avec des échecs qui sont des réflexes humains, lors de la fraction de seconde. Hein. Les temps caractéristiques dans un plasma, c'est plutôt la microseconde, voire plus petit. Il faudrait plutôt avoir des réflexes au millionième de seconde, hein, pour gérer un plasma. Bon, donc ça c'est un détail. Et
la puissance du soleil dans la paume de ma main.
Voilà, c'est exactement ça. Et ça, ça vient d'où? Ça vient de ce que disent les scientifiques qui travaillent sur la fusion, qui travaillent sur le soleil, qui ont compris que le soleil brille parce qu'il est chaud. Le soleil brille parce qu'il est chaud, ça suffit. Un truc chaud, ça brille. Vous êtes chaud, vous brillez, contrairement aux apparences. Il faut vous regarder en lumière infrarouge pour vous voir briller. Il faut vous regarder en lumière infrarouge, en lumière visible. Non, vous n'êtes pas assez chaud. Si vous étiez à 6000 degrés, vous brilleriez comme le soleil, avec la même couleur, si j'ose dire, que le soleil. Et pour faire des réactions de fusion, enfin les réactions de fusion qui sont au cœur du soleil permettent de compenser l'énergie que le soleil perd. Il la perd comment? Parce qu'il rayonne, il perd de l'énergie, il est chaud, il perd de l'énergie, ça va le refroidir, ça devrait, mais non, il est toujours là. Et donc c'est que quelque chose compense l'énergie qu'il perd, et cette énergie est compensée par des réactions de fusion thermonucléaire qui se déroulent au cœur du soleil. Donc, quand il dit la puissance du soleil au cœur de ma main, ça fait sens. Le soleil est une étoile qui compense l'énergie rayonnée qu'il perd par rayonnement par des productions d'énergie en son cœur qui vient de l'énergie thermonucléaire. Dans le cas d'une planète comme la Terre est chaude, elle rayonne, elle reçoit la lumière du soleil, elle est à l'équilibre entre ce qu'elle reçoit du soleil et ce qu'elle rayonne. Elle rayonne autant qu'elle reçoit du soleil en moyenne. Et il y a un petit peu d'énergie qui vient du cœur de la planète qui est chaud. Le cœur de la Terre est à 6000 degrés, vrai, comme la surface du soleil. Et comme c'est chaud, bah, ça rayonne un peu d'énergie à l'extérieur, on appelle ça le flux géothermique, et ça, au fil du temps, finit par refroidir la planète. Et dans beaucoup d'années, la Terre sera comme la Lune, petite taille, Mars de petite taille, qui sont entièrement solides jusqu'au cœur. La Terre, elle n'est pas encore solidifiée, enfin, froide, si je veux dire, plutôt, jusqu'au cœur. Parce qu'elle était plus grosse. Donc la machine à fusion, il nous dit, le gars, là, nous dit qu'elle produit 1000 mégawatts, 1 gigawatt, c'est l'ordre de grandeur. Si on n'utilise pas ces 1000 mégawatts, ils sont rayonnés en forme de lumière ou de chaleur, éventuellement en forme de chaleur, pas rayonnés, mais rayonnés en forme de lumière ou en contact, transmis par chaleur, Là, il y a 1000 MW, 1 gigawatt qui sort comme le sabre laser. On ne se met pas à proximité d'une source aussi puissante. Hein, c'est très dangereux. Voilà une image réelle de la surface du Soleil, avec une éruption typique du Soleil et la Terre à l'échelle, pour vous donner notre insignifiance. Et c'est une image qui a été prise en ultraviolet. Et donc, il y a des zones sombres, des zones brillantes à la surface du Soleil. Ce sont des fausses couleurs. Et ça ressemble un peu aux images qu'on voit dans le film. En fait, pour faire le plasma de fusion du film, ils ont pris des images scientifiques du Soleil pris en ultraviolet en rayons X, où le Soleil n'est pas uniforme en température en rayons X. Il y a des endroits plus chauds, des endroits moins chauds. Des endroits brillants, des endroits sombres, même noirs. Noirs au sens, ils n'émettent pas de lumière ultraviolette, ils n'émettent pas de lumière rayons X, parce qu'ils sont trop froids. Et du coup, on a une image... La petite image qu'ils mettent pour représenter ce plasma de fusion que manipule Octavius, c'est une image du Soleil prise en rayons X ou en ultraviolet et transposée en lumière visible pour qu'on puisse voir ce que nos yeux sont incapables de voir dans ces longueurs d'onde-là. Donc on voit exactement ce qu'ils ont fait. Enfin, moi, je vois exactement ce qu'ils ont fait pour faire ça. Et ils ont repris toute la discussion que les scientifiques donnent, les scientifiques qui travaillent sur les projets de fusion. Voilà la machine ITER à gauche avec l'échelle. Alors l'échelle, on peut la chercher. C'est un peu le jeu des 7 erreurs. L'échelle, elle est là. Ça, c'est un humain. Vous voyez la taille par rapport à la machine d'Octavius. Elle est assez compacte, sa machine d'Octavius. Et puis, la fusion universelle par laser, la chambre, là, la chambre au centre duquel il y a un petit machin de quelques millimètres de taille qui contient le mélange de deutérium-tritium qui va être insolé par les lasers. Cette chambre sphérique centrale fait 10 mètres de diamètre. Et au centre, tenu par un petit machin, il y a la petite pellette de 3 mm. Il faut voir ça, c'est stupéfiant. D'accord, donc voilà, ça c'est des machines à fusion qui vont fonctionner pour le mégajoule, qui vont fonctionner pour ITER, mais pas tout de suite. Le mégajoule avant ITER probablement, parce qu'il avait sa construction est finie et tout se passe à peu près nominalement, même s'il y a quelques réglages. Et pour ITER, c'est en construction. Donc ça fonctionnera en 2020. Et c'est une expérience ITER, c'est une expérience de physique. Donc ne pensez pas que ITER résoudra vos problèmes d'énergie dans 30 ans. ITER ne résoudra rien. Si ITER fonctionne, qu'on arrive à bien faire l'expérience, on a compris l'idée, on fera le démonstrateur d'ingénierie, ça reprendra 30 ans, qui permettra de faire le prototype industriel. Donc en 2080 ou 90, si tout se passe bien, vous aurez de l'énergie produite, de l'énergie électrique issue des réacteurs à fusion qui arrivera dans vos prises de courant. Pas avant, probablement. Donc il ne faut pas penser que ça va résoudre des problèmes dont on parle, on va y revenir tout à l'heure, d'énergie. Alors le voyage interstellaire quand même vite fait, bon ça on aimerait bien, c'est un peu rapide. Alors on va prendre la base, on est un peu loin du interstellaire, mais si on prend cette fusée là, Saturne V au décollage, c'est une grosse fusée Saturne V. C'est, je veux dire vulgairement, c'est une putain de grosse fusée. On n'a pas fait de fusée grosse comme ça, sauf peut-être maintenant les futures fusées qui retourneront sur la Lune ou qui iront sur Mars. C'est une énorme fusée. Cette fusée là au décollage, c'est juste hallucinant cette machine. Sa puissance, la puissance du premier étage, c'est 120 gigawatts. Ça veut dire que le premier étage, pendant un petit peu moins de 3 minutes, il est capable de fournir une puissance équivalente à 120 cœurs de centrale nucléaire dans une seule machine. C'est juste ahurissant la puissance qui part dans le Saturne V. Ça dure 3 minutes. Après, il n'y a plus de carburant, donc boum, ça s'arrête. Ça représente à l'époque un peu moins de 1% de la puissance électrique mondiale. Ça veut dire que dans cette machine... Pendant 3 minutes, il y a 1% de la puissance humaine qui va. D'accord ? C'est une machine juste hallucinante, Saturne V. Alors maintenant, imaginons un voyage interstellaire basique. Pas le grand luxe, hein. 1000 tonnes de charge utile, ça paraît beaucoup, mais il n'y aura que des robots, des sondes. Pas un humain, pas un chat, pas un chien, que dalle. Il n'y a pas assez de masse pour mettre des êtres vivants pendant la durée du voyage. Le voyage va être long, parce qu'on va faire une vitesse réaliste. 1/10 de la vitesse de la lumière. Ça nous permettra d'arriver à Alpha du Centaure en à peu près une 50aine d'années. 1000 tonnes de charge utile, 1/10 de la lumière. L'énergie nécessaire pour faire ça, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux tombeaux-là, c'est à peu près l'énergie que consomme l'humanité en une année entière. Ça veut dire que si vous voulez faire un voyage interstellaire, de 1000 tonnes à 1/10 de la lumière, on coupe tout sur Terre pendant un an. Vous arrêtez tout, on coupe tout, les conneries, tout, on coupe tout. Toute cette énergie qu'on n'a pas utilisée, on en fait un gros tas. Encore une fois, je passe sur les détails techniques. On met avec un rendement de 100%, ce gros tas, on ne sait pas le faire 100%, on met avec ce gros tas dans 1000 tonnes, et hop, les 1000 tonnes, elles atteindront Alpha du Centaure en 45 ans. Donc c'est pas facile. Si on veut faire tenir compte du rendement, c'est peut-être pas un an qu'il faut, c'est peut-être 10 ans, et peut-être même 100 ans. Parce qu'on aimerait que cette énergie qu'on a mis dedans, elle ne représente pas toute la consommation humaine pendant 10 ans. elle représente par exemple 1% de la consommation humaine de l'année. 1%, si je vous pique 1% de votre salaire, il y aura des remous. Mais essentiellement, ça ne va pas vous dégommer. Si on nous prend 1% de la puissance électrique consommée par l'humanité, mais là, c'est pendant 3 minutes. Mais là, ceci, on la prend pendant un an. Ce 1%, c'est pendant un an. Et maintenant, pendant les 45 ans que ça dure. Si on prend ce 1% et qu'on le met dans la fusée, on peut faire 1000 tonnes de charge utile, un dixième de la lumière, Alpha du Centaure, en 45 ans. Pour que ça représente 1%, il faut multiplier par au moins 100 et peut-être plusieurs centaines l'énergie dont dispose l'humanité. Multiplier par 100, on l'a déjà fait une fois, en gros, le 100, quand on est passé de l'ère pré-industrielle à maintenant. Il y a 10 fois plus d'humains, chaque humain consommant en moyenne, parce qu'il y en a où ils n'ont pas grand-chose, on pense à, je sais pas, au Sahel ou les régions pauvres, on consomme à peu près par humain 10 fois plus d'énergie qu'avant les années 1780-1800, et il y a 10 fois plus d'humains. Donc on consomme, l'humanité consomme 100 fois plus d'énergie entre l'ère pré-industrielle et maintenant. Il faut refaire le même coup dans une perspective où le pétrole, vous, le charbon, vous, le gaz, vous, il ne restera plus que ce qui restera. Vous n'allez pas aller sur les étoiles avec l'éolien. Ça, ça ne va pas être facile. Donc voilà, le problème, il est là. Si vous voulez faire des grandes choses, il faut beaucoup d'énergie et même beaucoup de puissance en même temps. Il faut à la fois le gros stock et le lâcher assez vite. Donc il faut beaucoup d'énergie. Je faisais un petit calcul aussi simple. Si on imagine qu'on arrive à augmenter notre consommation d'énergie au rythme de 1,5% par an ad infinitum, c'est peu probable que ça arrive, il faut seulement 310 ans pour multiplier par 100. C'est-à-dire que, imaginons qu'on réussisse à garder un rythme, ce qui est le rythme à peu près depuis les 30 dernières années, 1,5% d'augmentation par an de croissance pour la consommation d'énergie de l'humanité, en 300 ans, on a multiplié par 100. Ça veut dire que le voyage interstellaire, l'horizon, indépendamment d'autres problèmes techniques, c'est 300 ans. Pour que ce voyage représente 1% du budget énergétique humain, il faudra 300 ans, au rythme de 1,5% par an. On n'est pas sûr de maintenir parce que le pétrole, tout ça. Alors, ça donne tout de suite une idée que c'est pas facile et que ça nous amène à une chose qui a été imaginée par un astrophysicien soviétique, Kardashev, qui a imaginé classer les civilisations, il pensait aussi exobiologie, civilisation extraterrestre, les classer par quoi ? Quel était le critère de classement ? Exactement celui qu'on a utilisé tout à l'heure pour classer les Jedi. C'est quoi vos moyens ? T'as les moyens, on peut discuter, t'as pas les moyens, t'es minable. Et les moyens, c'est pas les dollars, là, c'est les watts. Et les watts avec le stock d'énergie derrière. Donc, il a dit, une civilisation de niveau 1, elle est capable d'utiliser toute la puissance disponible sur une planète. Essentiellement, elle est capable de récupérer toute la puissance lumineuse qui frappe la planète de la part de son étoile, par exemple, plus tout le flux géothermique, plus tout ce qui traîne en nucléaire, enfin tout. Tout ce qu'elle peut utiliser, elle l'utilise. Ça représente entre 10 puissance 17 et 10 puissance, entre 10 puissance 16 et 10 puissance 17 watts. L'humanité, elle a 10 puissance 13 watts. Elle est 1000 fois en dessous le niveau 1. Et comme le niveau 2, il y a 10 puissance 26 watts, eh bien oui, le niveau 2, l'humanité actuelle, son niveau, c'est 0,7. C'est une échelle logarithmique, donc ça veut dire, pour passer à 0,8, il va falloir multiplier par 10 ce qu'on fait. Pour passer à niveau 1, il faudra multiplier par 1000 ce qu'on fait. Alors le niveau 2, bah, le niveau, c'est d'une étoile. Là, les gars, ils sont capables de récupérer l'énergie de toute une étoile. Toute une étoile. Et ils font des trucs avec. Ou la puissance de toute une étoile. Et ils font des trucs avec. Alors, par exemple, qui fait ça ? Voilà, la Fédération des planètes dans Star Trek. Le niveau, c'est la Fédération des planètes dans Star Trek. Mon estimation. Eux, ils sont niveau 2. Et ça rigole pas. Quand il y a des mecs comme ça en face de vous, vous discutez même pas. D'accord ? C'est comme quand il y a Bill Gates qui arrive et qui dit « C'était des congrès, j'achète. Bah, » Dites, vous ne pouvez pas vous aligner, quoi. C'est pas à vendre. Hein. Je double le prix et vous partez maintenant. On voit l'étude et on se lasse. D'accord ? C'est, à un moment donné, vous n'avez pas les moyens, quoi. Bon, ben là, niveau 2, il ne faut pas discuter avec eux, quoi. Alors niveau 3, c'est encore un facteur 10 puissance 10 au-delà, c'est 10 puissance 36, donc là c'est quelque chose qui a un empire galactique. Il a des millions d'étoiles dont il est capable d'extraire l'énergie. Ça rigole plus là. Et donc ça c'est vraiment un niveau important. 10 puissance 36 watts, c'est des chefs là, ils ont vraiment les moyens. Alors ça c'est les Borg, ou l'empire de Star Wars. Eux ils sont à ce niveau-là. Ben, on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on a parlé tout à l'heure de la puissance nécessaire pour faire fonctionner l'étoile de la mort. Voilà, c'est le niveau. Ils sont niveau 3 de Kardashev. Nous, on est niveau 0,7, donc si l'Empire se pointe, ok, vous avez raison, salut les amis. Quoi. De toute façon, on n'a pas discuté, ils nous dégomment la planète, si on les... enfin, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont un niveau d'action sur la matière qui est tel qu'ils peuvent transformer entièrement une planète en poussière, ou la fabriquer s'ils veulent, balayer une étoile, parce que là, ils ont la puissance de millions d'étoiles, donc ils peuvent balayer une étoile, ça leur fait plaisir. Donc ils ont un niveau, c'est pas godlike, mais bon, ça ressemble. Alors on peut essayer de faire quand même l'humanité, pourquoi ? Tout à l'heure, on a dit l'humanité n'est pas capable de faire sauter la planète, au sens de la répartir comme font l'étoile de la mort. Même avec toutes les bombes nucléaires, tout ça, ça peut foutre un gros bordel, mais on risque pas de la casser et de la répartir dans l'espace comme ça, parce qu'on n'a pas assez d'énergie, évidemment. Je vais vous montrer une échelle sur laquelle sont classés des phénomènes naturels et des phénomènes humains, phénomènes naturels en noir, des phénomènes humains en rouge, classés en joules, l'énergie dégagée par le phénomène, et on va discuter aussi un peu de puissance, et depuis un éclair, à peu près de l'ordre du milliard de joules, tornade, orage, 100 milliards, 1000 milliards, Hiroshima, qui a pratiquement 10 puissance 14 joules, ça commence à pas rigoler, une bombe de 1 million de tonnes, voilà, c'est entre 10 puissance 15 et 10 puissance 16, ça veut dire... c'est l'énergie de mouvement d'une plaque continentale. Une bombe de 1 mégatonne, c'est la même énergie de mouvement très lent d'une énorme plaque continentale qui pèse des millions et des millions, même des milliards de tonnes. Une éruption volcanique, celle du Mont Saint-Helens en 1980, vous voyez, où l'énergie cinétique de un ouragan, c'est une bombe de 1 mégatonne. Vous voyez, un ouragan, ça rigole pas. Quand on dit qu'il faut se planquer, il faut se planquer. Sauf qu'un ouragan, c'est une énergie qui est diluée dans l'espace, et pas en un seul endroit, en quelques mètres. C'est sur toute la grande taille de l'ouragan. Donc c'est dilué, mais l'énergie totale d'un ouragan, c'est comme une bombe d'une mégatonne, quoi, en gros. Alors après, la plus grosse bombe que les soviétiques ont construit, 50 mégatonnes, vous voyez, ça a miné pas mal de trucs, c'est de l'ordre de grandeur de l'énergie sismique annuelle. L'énergie sismique moyenne dissipée dans tous les séismes du monde, c'est une fois la plus grosse bombe nucléaire qui a jamais explosé à la surface de la Terre. Ça donne une idée de notre capacité d'action, hein, c'est assez impressionnant. Et alors après, on peut regarder la consommation mondiale des USA ou la consommation mondiale mondiale. Les USA, c'est un quart du monde, c'est 4 fois les USA. Donc c'est pas mal, ça m'est minable 10 jours d'ouragan, ça m'est minable des éruptions volcaniques, ça m'est minable des plus gros tremblements de terre qu'on ait jamais vus. Donc l'humanité en un an dissipe une énergie qui est équivalente à celle, même plusieurs fois celle, de 10 fois celle du plus gros tremblement de terre qu'on a jamais vu. Alors pourquoi, c'est quoi la différence entre les deux? Vous l'avez compris maintenant, c'est la puissance, le débit. Nous on met un an pour dissiper 10 fois l'énergie du séisme, un an, là où le séisme dissipe un dixième de ce que nous on fait, mais en... fraction de seconde. Et donc la puissance du séisme est beaucoup plus grande et donc il casse tout. Alors que nous, on casse lentement. Mais on a une énergie suffisante pour transformer la planète à l'échelle de la planète, justement, pas localement. D'accord ? On a une énergie, nous disposons de l'énergie et la puissance qui va avec, 10 terawatts, pour transformer la planète à l'échelle de la planète. Et c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Et qu'on commence à toucher les murs. Parce qu'on a les moyens, là on est très nombreux, 80 watts de rayon par corps humain, il commence à faire chaud. Parce qu'on est seulement nombreux pour transformer la planète à l'échelle de ce qu'on produit. Si on était un ou deux, bah, pff, la température, elle ne bougerait pas. D'accord ? C'est exactement pour ça. L'humanité dispose collectivement d'une énergie suffisante pour transformer la planète globalement à l'échelle énergétique des plus grands phénomènes naturels, des plus intenses phénomènes naturels, pas à l'échelle de puissance, parce que nous, on fait ça à l'échelle de l'année, mais à l'échelle énergétique, sans aucun problème. Donc, pour conclure cette petite discussion, et prendre quelques questions quand même, voilà ma conclusion. Donc, vous avez compris que l'énergie et la puissance sont les nerfs de la guerre, du changement, sont les nerfs du changement en physique. Vous voulez faire des transformations, il faut de l'énergie et de la puissance. L'énergie, c'est sûr, de la puissance, ça va dépendre un peu de ce que vous voulez faire. Des fois, pas beaucoup suffit, mais voilà, il faut avoir les deux. Ce qui nous manque pour faire comme les ingénieurs de l'ASF, c'est l'énergie et la puissance. C'est accès à une énorme quantité d'énergie, et être capable d'y accéder comme on veut, par petits paquets si c'est pas besoin d'avoir des gros paquets, puis par gros ou très gros paquets s'il y a besoin de gros ou très gros paquets. C'est ça qui nous manque d'abord, pour les trucs qui sont plausibles. Je ne parle pas des vaisseaux qui vont plus que la lumière ou des machins incroyables. Des trucs qui sont en accord avec nos lois de la physique, on ne sait pas les faire essentiellement parce qu'ils sont en accord avec les lois de la physique, donc on pourrait les faire, on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas l'énergie et la puissance pour les faire essentiellement. Si on veut sortir de la Terre, il va falloir lâcher beaucoup d'énergie rapidement, donc beaucoup de puissance. Donc si on veut faire un voyage interstellaire, il va falloir beaucoup d'énergie sous la main et la lâcher vite. Et le problème, c'est est-ce que nous passerons les 100 prochaines années du point de vue énergétique ? Enfin, j'entends par là, est-ce que nous réussirons à maintenir, ne serait-ce que 100 ans, le niveau de consommation énergétique moyen que nous avons maintenant ? Ça n'est pas acquis. Peut-être que ça va continuer d'augmenter pendant 20 ans, puis à un moment donné, raf, j'en sais rien. Mais la question se pose, vu que toutes les énergies qui ont permis la croissance incroyable capitalistique depuis les années, mettons, 30 ou 45 jusqu'à maintenant, se sont fondées essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, sur les énergies fossiles, dont les stocks s'épuiseront, sont en stock fini, et puis quand il n'y en aura plus, et puis c'est mort. Donc charbon, pétrole, gaz, etc. Quand il n'y en aura plus, il n'y aura plus. Ça prendra 40 ou 50 ans pour les uns, peut-être 80, 90 ans ou 100 ans pour le charbon, mais en un temps fini, il n'y en aura plus, fini et pas long. Et donc là, il faudra jouer autrement. Ça ne veut pas dire qu'on sera à poil et que ah, ça va être terrible. Ça veut dire qu'on va jouer avec autre chose. Du solaire, du photovoltaïque, du nucléaire, en pédalant sur des vélos pour recharger des portables, j'en sais rien. On fera d'autres trucs, mais on n'aura pas un stock dans lequel on puise sans compter. Et ça sera une énergie extrêmement différente, parce que ça ne sera plus une énergie de stock, un gros tas dans lequel vous puisez, puis vous puisez aussi vite que vous pouvez. Vous avez 10 milliards d'euros, et vous pompez le fric aussi vite que vous pouvez. Comme il y a 10 milliards d'euros au début, ça ne se voit pas, et à la fin, il n'y en a plus. Là, vous avez un flux qui est imposé. Combien vous recevez du soleil? Et ça, c'est réglé. Il n'y aura pas plus. On vous donne l'argent de poche, c'est 10 euros par semaine et point barre. Et avec ça, tu te démerdes. Donc c'est la différence entre gérer un stock et gérer un flux. Le stock s'épuise, donc on a intérêt à piocher dedans pas trop vite si on veut le garder longtemps. Le flux ne s'épuise pas, il est renouvelable, mais vous ne pouvez pas dépasser la valeur du flux imposé par le soleil est comme il est et on est à cette distance où on est. Et le vent, il est comme il est, et il ne souffle pas à 2000 à l'heure, et ni à zéro non plus des fois. Il faudra se démerder avec ça. D'accord ? Donc voilà le problème qui est posé. Finalement, par la science-fiction, si on veut faire ça, il faut faire péter les watts. C'est pas sûr qu'on ait les moyens, mais il ne faut pas désespérer. Il faut réfléchir, et surtout, pas trop la ramener. Baisser, lever le pied sur le champignon, être un peu calme, voilà, éteindre les lumières, réutiliser l'air chaud de la pièce pour chauffer les autres parties du... Vous voyez, 80 watts, ça en est 100, là, 80 watts par corps. Voilà, ben, merci de votre attention.